Alors, le cours d'aujourd'hui, j'ai voulu faire le cours d'aujourd'hui puisque c'est un cours qu'on a fait, ça fait 4 ans, je crois. D'accord ?
Ah ouais.
À l'occasion de la fête de Shavuot. Donc, ça fait un bout de temps. Et vous allez voir comment ce cours est vraiment lié, Bezrat Hashem, au Tanya. Alors, bien qu'on ne va pas citer directement le Tanya, mais c'est les idées qu'on retrouve beaucoup dans le Tanya. En guise d'introduction, je voudrais rappeler rapidement les grands miracles qui se sont passés lorsque nous avons reçu la Torah. Nous n'avons pas simplement reçu la Torah, on l'a reçue et ça s'est passé comme ça. Il y a eu beaucoup d'effets spéciaux. Vous pouvez appeler ça Spielberg si vous voulez. En tout cas, il y a eu beaucoup d'effets spéciaux.
À ce moment-là.
Et les descriptions très claires dans la parashat Yitro. Et lorsque Moshe répète l'histoire 40 ans plus tard dans la parashat Vaetranan, il raconte comment il y avait des tonnerres, des éclairs, comment le monde entier a tremblé pendant le don de la Torah, etc. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans la parasha Yitro, on nous raconte l'histoire en temps réel, comment elle se passe en live. Et dans la parasha Vaetranan, 40 ans plus tard, Moshe Rabbeinu répète l'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsque Moshe Rabbeinu répète l'histoire, il s'arrête sur les détails qui n'était pas écrit dans la parasha Yitro. En fait, c'est souvent comme ça. Vous savez, c'est souvent comme ça. Lorsqu'il y a une histoire qui se passe, l'histoire se passe en temps réel, donc il y a certains détails qui vous captent l'esprit. Et après, lorsque vous attendez un petit peu, et vous repassez l'histoire quelques jours plus tard, vous revoyez les détails que vous n'avez pas vus. Et plus vous avez du recul, et plus vous voyez les détails que vous n'avez pas vus. Et c'est exactement ce qu'on va voir à propos du don de la Torah. Lorsque Moshe Rabbeinu va répéter l'histoire aux enfants d'Israël, il va leur donner quelques angles différents. D'accord ? Donc, on va s'arrêter aujourd'hui sur un des détails, qui est justement le titre du cours d'aujourd'hui, la voix de Dieu. Alors, si vous cherchez dans les 10 commandements tels qu'ils sont écrits dans la parasha Yitro, on parle juste de tonnerre, d'éclair, on parle pas de la voix de Dieu. On parle pas de miracle spécifique autour de la voix de Dieu. Il y a une voix de Dieu, c'est tout. Mais là, vous allez voir que quand on va voir dans la description, dans la parashat Vaetranan, qui rappelle cette histoire, on va voir qu'il y a une autre approche que la Torah va nous donner par rapport à ce qui s'est passé. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous rappeler que dans le cours d'aujourd'hui, on va avoir beaucoup de midrashim. Et souvent, dans la tête des gens, dès qu'on dit le mot midrash, dans la tête des gens, midrash, c'est quelque chose qui est léger, c'est quelque chose qui est imaginaire, c'est quelque chose, etc., que Dieu préserve. Alors que pas du tout, vous allez voir que dans le cours d'aujourd'hui, le rabbi va nous démontrer comment, derrière un midrash qui avait l'air anodin, se cache un grand message, et pas seulement un grand message, mais plusieurs grands messages qui ont un impact sur la vie de tous les jours, sur notre vie d'aujourd'hui.
Comment on définit le midrash?
Le midrash, en fait, le midrash en général, c'est les mêmes auteurs que la Gemara. Ce que dans la Gemara, ils sont là pour commenter des halachot, alors que dans le midrash, ils sont là pour commenter les textes du Chumash, pour essayer de raconter l'histoire et de tirer des enseignements. Seulement, le midrash a l'air très souvent complètement détaché de la réalité, alors que ça ne l'est pas du tout. Et vous allez voir que dans le cours d'aujourd'hui, on aura plusieurs exemples. Plusieurs exemples de choses qui ont l'air complètement... j'en dis pas plus pour l'instant. Donc, allons-y pour les effets spéciaux. Vous êtes prêts? On y va. Alors, tenez. Parasha va être Anan. Dans la parasha va être Anan, la parasha nous dit la chose suivante. Et la devarim elé, donc c'est Moshe Rabbeinu qui raconte, qui dit, ces choses-là, diber Hashem, donc en parlant des 10 commandements, donc, diber Hashem et kol kealchem bahar, Dieu adressa donc ses paroles à toute l'assemblée sur la montagne. Bon, ça on le savait que c'est sur une montagne, le mont Sinaï. On n'a rien appris de nouveau pour l'instant. Mitoch ha'esh, au milieu des feux, ça c'est écrit dans la parasha Yitro aussi. Et Anan, les nuées, écrit aussi. Vea Raphaël, la brume, très bien. Et là, attention, on commence des nouveaux détails. Kol Gadol Velo Yasaf. Une voix puissante, sans y rien ajouter. Mais ça veut dire quoi sans y rien ajouter? Ça, on va voir. Donc là, on parle d'une voix puissante. Une voix puissante, sans y rien ajouter. Et on nous raconte, ça on le savait aussi, la suite. Vaïr tevem, al-shne luchot avanim, vaïtenem elai. Donc, ensuite, par la suite, Dieu écrivit ses commandements sur les deux tables de pierre, qu'il me remit. Voilà, c'est Moshe Rabbeinu qui raconte l'histoire. Donc en fait, c'est une répétition. Moshe Rabbeinu répète l'histoire. Mais dans l'histoire, lorsqu'il la répète, il y a un nouveau détail qu'on ne connaissait pas. Il nous parle d'une grande voix, sans y rien ajouter. que ça veut dire quoi une grande voix sans y rien ajouter?
C'est français,
oui. Ah oui, exactement. Même en français, ça passe pas. Ça veut rien dire. Alors, on a plusieurs explications. D'abord, je vais vous donner les deux explications de Rashi. Sur la question. Mais vous allez voir que le cours d'aujourd'hui n'est pas basé sur les deux explications. Première explication de Rashi. Rashi nous dit, ça veut dire quoi une voix sans y rien y rajouter? Ça veut dire que, en fait, vous savez, un être humain, quand il parle, il a besoin forcément de reprendre son souffle. Et là, je vous parle par exemple, en même temps que je vous parle, je m'arrête toutes les quelques secondes et instinctivement, je reprends mon souffle. Mais Dieu, lorsqu'on dit qu'il parlait sans y rien ajouter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il parlait d'un trait, il n'y a pas de stop, il n'y a pas d'arrêt. C'est-à-dire que c'est pas qu'il a besoin de parler et qu'il s'arrête. Kol gadol veut yassab. Tu dis Rashi, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y avait un miracle, c'est une voix qui était d'un trait. Ce que nous, on est incapable de faire.
Constante.
Comme ça, il s'arrête pas. Tu peux pas, à un moment, tu craques. Même si tu tiens combien de temps? 10 secondes, 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, à un moment, il faut que tu craques. Et là, qu'est-ce qu'on te dit? Rashi te dit que ce miracle, un des miracles qu'il y avait, c'était que c'était une voix qui était sans reprendre de souffle. Bien sûr, Dieu n'a pas de souffle, mais c'est une image. Deuxième explication que nous dit Rashi. Il nous dit, ça veut dire quoi? Velo yassaf, une voix sans y rien ajouter. Ça veut dire qu'en fait, une telle voix, ça ne s'est jamais reproduit dans l'histoire. Jamais on a entendu une voix comme ça de Dieu, ni on l'a entendu avant, et ni on l'a entendu après. Voilà comment Rashi explique cette voix. Ça veut dire quoi une voix qui ne s'est pas rajoutée? Une voix qui ne s'est pas rajoutée, d'après Rashi, ça veut dire, premièrement, c'est une voix que Dieu n'a pas besoin de reprendre de souffle. Deuxièmement, ça veut dire que c'était une voix, ce phénomène de la voix de Dieu, c'est un phénomène qui ne s'est jamais reproduit. Ça veut dire que c'est la seule fois où Dieu a parlé à toute l'humanité. Toutes les autres fois, Dieu y parle à Moïse, qui va répéter, etc. C'est la seule fois. Kol gadol veli yassaf.
C'est-à-dire que s'adresse à Moïse, s'adressait différemment. La voix était aussi différente ou c'était la même, finalement?
Peut-être c'était la même, mais en tout cas, jamais il s'adressait à nous. Jamais il s'adressait à nous. D'accord?
Mais alors, oui? Juste une remarque. Concernant la formulation, voix puissante sans rien ajouter. Sans rien ajouter, je peux vous tromper, mais moi je le perçois comme étant quelque chose qui. Il n'y avait rien d'autre à rajouter, ça veut dire qu'elle était claire, elle était limpide, elle était vérité, elle était accessible à tout le monde à ce moment-là. Il n'y avait pas besoin de rajouter des détails, etc. Il prend son souffle ou pas.
Bon, on va voir. C'était limpide. J'entends ce que vous dites.
Le message était transparent.
Rashi n'a pas dit ça. J'entends.
Non, je ne critique pas Rashi.
Non, j'entends ce que vous dites. Seulement, c'est évident que quand Dieu y parle, il n'y a rien à rajouter.
Oui, c'est ça.
Donc, il n'y a pas besoin de le dire.
Voilà.
Qu'est-ce que tu m'apprends?
C'est parce que c'était la.
C'est pour ça qu'on va chercher quelque chose. Non, j'entends ce que vous dites. On verra dans la suite. C'est un point important ce que vous dites. Donc, continuons. Donc, Rashi a expliqué. Mais le commentaire de Rashi, vous ne l'avez pas dans la feuille. Bonsoir. Le commentaire de Rashi, vous ne l'avez pas dans la feuille. Parce que le cours d'aujourd'hui n'est pas basé sur le commentaire de Rashi. Aujourd'hui, on va s'arrêter principalement sur le commentaire, les cachets là, sur le commentaire du Midrash. D'accord? Donc voilà. Juste, je vous ai donné le commentaire de Rashi pour vous le donner. Voilà, Rashi a dit qu'une voix sans y rien ajouter, ça veut dire que deux choses. Ça veut dire que d'abord Dieu il parlait d'un seul souffle sans s'arrêter, et ça veut dire aussi que ce phénomène ne s'est jamais reproduit. Mais le Midrash nous donne trois autres explications. On y va. Donc c'est le Midrash juste en dessous, Shemot Rabba. Donc c'est le Midrash Rabba sur Shemot Yitro, Parashat Chafret, chapitre 28. Et le titre du Midrash est Kol Gadol Velo Yassaf. Une voix puissante sans y rien ajouter. Donc le Midrash, évidemment, se pose la question, ça veut dire quoi sans y rien ajouter? Et nous avons trois avis dans le Midrash pour expliquer ce que ça veut dire une voix sans y rien ajouter. Premier avis dans le Midrash nous dit la chose suivante. Il nous dit, Rabbi Yochanan a dit, Kol Echad Nechelak Lezaïn Kolot. En fait, Rabbi Yochanan nous explique que chaque voix se divisait en sept voix. Behem nechlakim le ayin lashon, et eux ils se divisaient en 70 langues. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en vérité, lorsqu'on te dit que une seule voix sans y rien ajouter, ça veut dire qu'en vérité Dieu n'avait pas besoin de parler en 70 langues. En une langue il y avait 70. Comment c'est possible? C'est un miracle évidemment. Imaginez si je vous dis je te parle en une langue et ma parole automatiquement, sans que j'y rajoute rien du tout, automatiquement elle se transforme, elle se disperse. Elle se divise en 7, et ça se subdivise encore une fois en 10, ça fait 70 langues. Donc voilà une explication du Midrash. Là, on est déjà dans le miracle. Là, on est déjà dans l'esprit de Berne. Il te dit, ça veut dire quoi une voix sans y rien ajouter? Ça veut dire que Dieu, c'est pas comme nous. Si je veux parler à 70 pays, 70 langues, ben, il me faut 70 personnes. Ou il faut 70 prises de parole. Mais chez Dieu, c'est pas comme ça. Kol Gadol Velo Yasaf. C'est une seule voix, sans y avoir besoin d'ajouter. Ça veut dire que cette voix, cette même voix, elle va s'adapter à toutes les voix possibles du monde. C'est-à-dire que même si t'as quelqu'un qui habite à Tombouctou, qui comprend pas l'hébreu, eh ben, cette voix, il va la comprendre. Parce que ça va s'adapter en sa langue.
C'est pas 7 fois 10, 7 fois 70, si
tu veux. Non. En tout, il se divisait en 70.
Ah, d'accord.
D'accord?
Non, mais c'est pas comme ça que tu veux.
Donc, il se divisait en tout en 70 langues. Ça, c'est une explication du Midrash. Très bien. Deuxième explication. Rabbi Shimon ben Lakish amar. Rabbi Shimon ben Lakish, ça c'est des auteurs de la Gemara, on le retrouve souvent dans la Gemara C2. Rabbi Shimon ben Lakish amar, Rabbi Shimon ben Lakish a dit, ça veut dire quoi? Une voix sans y rien ajouter. Ça veut dire, Shemimenu nitnabeu, kol atevi, inkol anevim shamdu. Que de cette voix, tous les prophètes qui ont suivi ont prophétisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, tu dis, ça veut dire quoi? Une voix sans y rien ajouter. Ça veut dire que toutes les prophéties qui vont suivre jusqu'à la fin des temps, en vérité, sont une prolongation de cette voie qui a commencé au Har Sinaï, au Mont Sinaï. Comme dit dans le commentaire là-bas, Afalpi shelo haya beotasha, même le prophète qui n'était pas sur place, physiquement il n'était pas sur place, Kvar haita nevoa beyadom Har Sinaï, il détenait déjà la prophétie en eux depuis le Mont Sinaï, veadotasha'a, lo nitna reshut leitnabot, sauf que, imaginons un prophète, par exemple, voilà, on est sorti d'Égypte 2448. Bon, très bien. Imaginez un prophète qui a prophétisé en 2800. D'accord? Près de 400 ans plus tard, un peu moins de 400 ans plus tard. En vérité, c'est ce qu'on te dit. Cette prophétie, ce prophète, il la connaissait depuis 2448. Seulement, à ce moment-là, Dieu lui a dit, toi, tu parles pas, tu te tais pour l'instant. Mais lorsqu'il a parlé en 2800, il n'a fait que dire une parole, qui est la continuité de la parole de Dieu, la fameuse voix, sans y rien ajouter. Ça veut dire que, Rabbi Shimon ben Lakish te dit, ça veut dire quoi, une voix sans y rien ajouter? Ça veut dire que de cette voix que Dieu a parlé au Mont Sinaï, toutes les voix des prophètes vont suivre, vont découler de cette voix. Dieu n'a rien besoin d'y rajouter, tout y était. Et d'ailleurs, deux secondes, je termine la phrase. Ve'af hachamim ha'odim bechol dor vador. Et même les sages de chaque génération, kol echad ve'echad kibel et shelo mishinaï, chacun a reçu sa part au Mont Sinaï, et tout ça provient d'une seule voix, sans y rien ajouter. Voilà. Ça veut dire sans y rien ajouter, ça veut dire en d'autres termes, Dieu, quand il a dit, tout était là. Et même ce qui va être découvert dans un siècle, dans 10 siècles, dans 15 siècles, c'était déjà dans ce que Dieu a dit. Voilà comment Rash Lakish explique. Maintenant, troisième avis, Rabbanan Amré, les Chachamim nous disent, ça veut dire quoi une voix sans y rien ajouter? Shelo hayalo batkol. Cette voix n'avait pas d'écho. Alors, quand je dis n'avait pas d'écho, c'est pas... en français, ça veut dire plusieurs choses, ne pas avoir d'écho. Pas avoir d'écho, ça veut dire que personne l'a entendu. Non, c'est pas ça. Ne pas avoir d'écho ici, ça veut dire que c'est une voix qui n'avait pas d'écho. Ça veut dire que, tu sais, quand je parle dans un endroit, ça résonnait pas. Cette voix n'avait pas d'écho. Donc, nous avons ici trois explications pour expliquer ce que le Midrash a dit. Ce que le Chumash a dit. Le Chumash nous a dit, quand Moshe Rabbeinu répète l'histoire dans la paracha Vayetranan, il nous répète l'histoire des 10 commandements, il nous dit, vous savez, lorsqu'on a reçu la Torah, il y avait une voix puissante sans y rien ajouter. Ça veut dire quoi sans y rien ajouter? Je mets de côté ce que Rashi a expliqué. Nous avons trois explications du Midrash. Première explication, sans y rien ajouter, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin de traduire. La Torah a été traduite automatiquement et simultanément dans toutes les langues, sans que Dieu ait besoin de parler une seconde fois. Premier miracle. Deuxième miracle, d'après Rash Lakish, il te dit non. Et tu dis, ça veut dire quoi? Une seule voix sans y rien ajouter. Ça veut dire que de cette même voix du Mont Sinaï, tous les prophètes vont prophétiser sans avoir besoin de rajouter autre chose. Tout provient de cette même voix. Et enfin, troisième avis, c'est l'avis des Chachamim qui nous disent, ça veut dire quoi? Une voix sans y rien ajouter. Ça veut dire que la voix n'avait pas d'écho. Ça veut dire quoi la voix n'avait pas d'écho? Ça veut dire qu'en général, si moi je parle, je dis A, et l'écho me répond A. A. Donc nous sommes combien? Nous sommes deux, il y a moi et il y a l'écho. Ben oui, moi j'ai dit, il y a la nature qui m'a répondu. Mais là, Chachamim comprennent que lorsqu'on te dit une voix sans y rien ajouter, ça veut dire quoi sans y rien ajouter? Ça veut dire que c'est pas qu'il y a une voix et qu'il y a un phénomène qui répond. Eh ben, il y a une seule voix et c'est tout. Il n'y avait pas d'écho. Cette voix n'avait pas d'écho. Ce que disent Chachamim. Bon, alors autant les deux premières explications, on peut les comprendre. C'est des miracles qui servent à quelque chose. C'est des miracles, mais ça sert à quelque chose. Me dire que la parole de Dieu était traduite simultanément en 70 langues, c'est beau. Imaginez, c'est quand même beau, la parole de Dieu qui est traduite simultanément par Dieu en 70 langues sans besoin de reprendre la parole à chaque fois. C'est beau. C'est un miracle qui sert à quelque chose. Et techniquement, toutes les nations du monde ont entendu les 10 commandements dans leur langue. C'est-à-dire celui qui était en France, il entendait les 10 commandements en français. Et tout ça, ça venait du même son. C'est-à-dire Dieu, il émet un son, et ce son, dès qu'il passe par la France, il devient français. Il y a comme ça modification, le convertisseur, vous savez, comme les convertisseurs, tu vois. Hop, après le son, il avance, il arrive en Allemagne, hop, il dit en allemand. Ça, c'est un miracle intéressant. Mais c'est un miracle qui a une utilité. Parce que c'est quoi le but de ce miracle? Le but de ce miracle, c'est que ça sert à rien qu'un Français écoute les 10 commandements en hébreu. Le but des 10 commandements, c'est quoi? C'est qu'il soit entendu et compris. Donc ça, c'est un miracle qui est utile. C'est un miracle qui est utile, le fait que c'est traduit simultanément en toutes les langues. Le deuxième miracle est utile aussi, de me dire qu'en vérité, toutes les prophéties qui vont venir jusqu'à la fin des temps, eh ben, en vérité, elles sont toutes issues du Mont Sinaï. C'est un miracle intéressant. Ça veut dire que quelque part, on est en train de te dire, ne crois pas que bon, il y avait les grands, c'était Moïse, après les autres, c'est des rigolos. Non, je te dis non. En vérité, tous les prophètes, jusqu'à la fin des temps, sont une continuité directe de Moshe Rabbeinu, sont une continuité directe de ce qu'il y avait au Mont Sinaï. Ça, c'est un miracle intéressant. Par contre, le troisième miracle, tu me dis une voix qui n'avait pas d'écho. À quoi il sert ce miracle? Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, si la voix, elle a un écho ou si elle n'a pas d'écho? Surtout que, regardez, ça, c'est la question que pose le rabbi dans l'écouté Sirot, référence numéro 2. Il dit la chose suivante. Il dit, ça veut dire que la voix n'avait pas d'écho. En général, imaginez que vous êtes dans le désert et que vous parlez à voix basse. Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Imaginez que vous êtes dans le désert ou dans un endroit où il y a des montagnes et que vous parlez à voix haute. Qu'est-ce qui va se passer?
Un écho.
Un écho. Imaginez que vous parlez très très fort. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un écho encore plus fort. Donc, non seulement que le miracle de l'écho, a priori, ne sert à rien, qu'il n'y a pas d'écho, ça ne sert à rien, parce que d'abord, pourquoi c'est un écho et pas d'écho? En plus, dans la tête des gens, le fait qu'une voix n'a pas d'écho, ça symbolise une voix qui est faible. Parce que si c'est une voix qui est forte, elle doit faire un écho. On est d'accord? Ça veut dire qu'ici, par exemple, imaginez, pourquoi quand je vous parle ici, il n'y a pas d'écho? Parce que je ne parle pas assez fort. Mais si vous mettez des gros parleurs qui mettent un son très très fort, forcément il y aura un écho. Peu importe l'endroit dans le monde où tu es, il y aura un écho. Donc, à quoi il sert ce miracle qui est a priori contre-productif? Parce que c'est quoi le but de ce miracle? Le but de tous ces miracles, c'est quoi? C'est de montrer la grandeur et la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Alors qu'est-ce que tu fais? Les deux premiers miracles, c'est intéressant. Traduction simultanée, pourquoi pas, c'est bien. Tu me dis que tous les prophètes ont prophétisé de ça, pourquoi pas. Mais à quoi il sert ce miracle que tu me dis que cette voix n'avait pas d'écho? Alors là, en fait, j'ai trois questions à poser. Et je vais lire dans les mots, après on fera une pause pour les questions. Donc, trois questions, cette histoire d'écho. On va s'arrêter sur l'histoire d'écho, et après, Bézrat Hachem, dans la suite du cours, on reviendra sur les deux premières explications, l'histoire de la traduction simultanée. On va s'arrêter d'abord sur la troisième explication. Où est le miracle, et à quoi sert ce miracle? Donc, nous dit le rabbi dans l'écouté Sirot, référence numéro 2, « Zeh shelo haya bat kol, eino more lichora al chosek hakol. » Le fait que la voix n'avait pas d'écho, a priori, ça ne montre en rien la puissance de la voix. Des adraba, au contraire, que chol shakol chazak yoter, plus une voix est puissante, azaya et shelo chazak yoter, et plus son écho est encore plus puissant. Vekevan shakol zelo ayalo ed, étant donné que tu me dis que cette voix n'avait pas d'écho, areze more lirora alchul chato. Donc ça montre a priori sa faiblesse. Ça c'est la première question. Deuxième question. Une question beaucoup plus profonde. Dans ma première question, si tu me dis que la voix n'est pas adéquate, c'est qu'elle était faible. Pourquoi Dieu fait une voix faible? Pourtant, d'un autre côté, tu me dis dans l'intro que c'est une voix forte. Ah, pourquoi tu veux pas d'écho? Qu'est-ce que ça dérange de qu'il y ait un écho? Première question. Deuxième question. Vous savez, on va apprendre les drachot du Ran. Alors, le Ran, c'est Rabbeinu Nissim. Rabbeinu Nissim, il a vécu en Gironde. Rabbeinu Nissim, il a écrit, ça fait longtemps qu'il a vécu, il a vécu environ 800 ans d'aujourd'hui. Et il a écrit beaucoup de commentaires très profonds sur la Gemara. Et il a écrit aussi des drachot. C'est drachot. Drachot qu'il faisait à la synagogue. Très profond, hein. Enfin, il appelait ça les drachot, mais c'est très long, quoi. Je pense que pour les dire, il aurait fallu au moins 3-4 heures. Donc, à mon avis, c'est plutôt une compilation de drachot.
À moins qu'il
ait un auditoire qui avait suivi 4 heures.
Je ne sais pas, c'est l'heure. Ah, si Dieu...
Alors, dans cette drachot. Pardon? Dans cette drachot, Rabbeinu Nissim s'arrête sur plusieurs sujets. Sur plusieurs sujets de, de la pensée juive et sur plusieurs sujets très profonds, d'accord, de la Emouna. Et dans une de ces drachotes, la dracha numéro 8, il s'arrête sur la question du miracle. Il pose la question là-bas et dit finalement à quoi ça sert un miracle? Pourquoi Dieu fait un miracle? Est-ce que des fois Dieu fait des miracles pour rien? Et il a une question très simple qu'il pose là-bas. Il dit, mais il y a une question. Qui a créé la nature?
Dieu.
Qui crée la nature à chaque instant?
Dieu.
Qui fait le miracle?
Dieu.
Ah, pourquoi il fait un miracle si de toutes les façons il fait la nature?
Parce qu'on n'a pas forcément conscience de ça.
Ah.
Mendy, parce que quand vous dites ça.
D'accord. Alors attendez. Donc, il y a une question très simple. Rabbeinu Nissim, il te dit, Loran, c'est Rabbeinu Nissim. Il te dit la chose suivante. Il te dit, pourquoi Dieu fait un miracle? Et écoutez ce grand principe qui existe, un principe qui est ramené très souvent par tous les penseurs juifs aujourd'hui. Un principe que nous lisons à la fin de la référence numéro 2. Refet Hashem Itbarer Urtsono. La volonté de Dieu et son désir est le kayem minhago shel olam bichol ma de'efshar. Dieu désire de maintenir au maximum possible le minhago shel olam, les usages du monde. Veshateva yakar beinav. La nature est précieuse pour Dieu. Lo yeshaneu. Et s'il devrait y introduire un changement, ça sera Ela le tzorer echeri seulement qu'en cas de grand besoin. Alors là, j'ai une question à vous poser. Si c'est écrit dans la paracha Yitro que, et d'ailleurs on le dit que le son en matin de Torah, lorsqu'on a reçu la Torah, c'était Kol Gadol. C'était une grande voix. Donc si c'est une grande voix, naturellement, dans la nature que Dieu a créée, une grande voix doit faire
un écho
considérable. D'accord? Et là, apparemment, Dieu fait un miracle. Dieu fait un miracle, qui d'abord est contre-productif, comme on a expliqué, parce que si tu fais pas d'écho, ça laisse entendre que la voix n'était pas forte. Mais plus que ça, c'est un miracle, a priori, qui ne sert à rien. Or, nous avons un principe que Dieu ne fait jamais de miracle qui sert à rien. Et c'est pas Dieu qui fait des petits miracles comme ça pour kiffer. Ça n'existe pas. Et c'est pas comme si vous êtes, Spielberg en train de monter un film, il dit, bon, tu sais quoi, on va leur faire un petit effet spécial. C'est pas grave, ça coûte rien. C'est une option sur l'ordinateur, on leur fait un petit effet spécial. Ça marche pas comme ça chez Dieu. Parce que Dieu, c'est lui qui crée la nature maintenant. Donc la nature est chère à Dieu, c'est lui qui l'a créée. Donc s'il doit modifier son propre système qu'il est en train de créer en parallèle, il faut qu'il ait une bonne raison de le faire. Or, là, Dieu modifie la nature sans raison. Tu prends les deux premiers miracles. Prenons par exemple le premier miracle. Le fait de dire que la voix était traduite simultanément. C'est un miracle, évidemment c'est un miracle. Parce qu'on n'a jamais vu une voix qui se traduit toute seule. Mais c'est un miracle qui a une utilité. C'est un miracle qui sert à quelque chose. Le but, c'est que toutes les nations entendent la Torah de Dieu, directement, sans passer par personne interposée. C'est un message qui sert à quelque chose. D'ailleurs, pour ça que la Bible aujourd'hui est répandue dans le monde entier. C'est le livre le plus vendu au monde. D'accord? Mais par contre, ce miracle, lui dit que la voix n'avait pas d'écho. À quoi il sert? C'est un miracle inutile. C'est un miracle inutile. Donc si c'est un miracle inutile, pourquoi Dieu le fait? Et surtout, qu'est-ce que ça m'apprend dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce que j'apprends, moi, de ce midrash? Excusez-moi, ça me fait une belle jambe. Qu'est-ce que j'en ai à faire, moi? Tu me racontes qu'il y avait d'écho, il n'y avait pas d'écho. Qu'est-ce que j'en ai à faire, monsieur? Voilà, il y avait d'écho, il n'y avait pas d'écho.
Qu'est-ce que ça change,
j'ai... Ça me change rien.
Je m'en souviens.
Ça me change quoi qu'elle avait un écho, qu'elle n'avait pas d'écho?
Moi.
Oui. Alors, allez-y, pose question.
Il y a un problème, c'est que si un écho, tu dis un truc, je suis l'éternel, et l'écho, il va prendre, on peut comprendre.
Oui.
C'est pour ça qu'il n'y a pas d'écho. Alors. Si je vous dis un mot, je suis l'éternel, on peut comprendre.
Alors, j'entends ce que tu dis. Alors, Serge, j'ai une très bonne réponse. Ta réponse, c'est la réponse des tosafistes. Ouais. Pas rien.
Il était là il y a 4 ans.
D'accord.
Ah oui.
Je pense pas que je l'avais dit il y a 4 ans. Voilà.
Hein?
Alors, il dit comme ça. Hein?
Non,
il y a quoi? Hein?
Mendy.
Non, il y a pas de... c'était il y a 4 ans. Je pense pas qu'il y a 4 ans.
Mendy.
Alors, deux secondes. Non, mais il faut que je reprenne sa question, je remette sa réponse. Serge donne une réponse. Et lui, c'est très simple. Il dit, en fait, pourquoi Dieu fait un miracle qui n'a pas d'écho? Parce que s'il y a un écho, les gens vont penser qu'il y a deux dieux. Je pousse un peu plus loin ce que tu dis. Parce que les gens, ils vont entendre « Je suis l'éternel ton Dieu ». Et une seconde plus tard, « Je suis l'éternel
les
ton Dieu ».
Les gens savent qu'il y a un écho, donc ils vont pas...
Ils vont dire qu'il y en a deux. D'accord? Sauf que, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que, d'abord, c'est pas logique. Tout le monde sait que c'est un écho. D'accord? Parce que comme l'écho vient tout de suite après, tout le monde sait que c'est un écho. Et je vais te dire plus que ça. Il y a un autre midrash qui nous raconte... et ça c'est encore plus fort, qui nous raconte que lorsque les Bnei Israël sont venus pour recevoir la Torah, ils cherchaient à voir d'où vient la voix. Alors, à un moment, ils sentaient que la voix venait de l'Est, donc ils couraient vers l'Est. Et dès qu'il courait vers l'est, il sentait que la voix venait de l'ouest. Donc il courait vers l'ouest. Et dès qu'il courait vers l'ouest, il sentait que la voix venait plutôt du sud. Il courait vers le sud. Dès qu'il courait vers le sud, il sentait que c'était bon. Et comme ça, ils ont tourné en rond pendant je sais pas combien de minutes, jusqu'à qu'ils ont compris qu'en réalité la voix était partout. C'est-à-dire que tu sais quand tu cherches un son, des fois tu cherches, et il va là. Non, c'est pas là. Alors, après tu sens que c'est là-bas. Ah, il va là-bas. Et il va là-bas. Il revient. Ça veut dire que la voix était partout. Mais... D'accord. La voix était partout. Donc je reprends la question. Et d'ailleurs, vous savez comment on dit en hébreu un écho? Comment on dit en hébreu un écho? Bat call. Bat call, c'est quoi bat call? Bat call, la fille de la voix. Ça veut dire elle est générée par la voix. Tout le monde sait qu'un écho c'est généré par la voix. Même un enfant il sait ça. Là, tu fais le coup à un enfant quand il a un an, tu lui dis ah, regarde il a parlé. Mais après il a compris le coup, tu le refais plus, après c'est fini. Donc c'est un miracle qui sert à rien. C'est d'abord c'est un miracle qui est contre-productif, c'est un miracle qui sert à rien. Pourquoi Dieu a fait une voix qui n'a pas d'écho? Il sert à rien ce miracle. Il sert strictement à rien. Et surtout, encore une fois, quel message ça m'apprend, quel message ça m'apprend dans la vie de tous les jours. Au passage, vous savez, cette histoire qu'on a dit que Dieu ne fait pas de miracles pour rien. Agmara, elle raconte une histoire. Elle dit une fois, il y avait une personne qui était mariée et qui a eu un enfant. Et apparemment, lorsque l'enfant était tout petit, sa femme est décédée. Et donc, elle a laissé un fils qui devait allaiter, qu'il fallait allaiter. Non, le père ne peut pas allaiter son fils. Et il n'avait pas de quoi payer une nourrice. Comme c'était fréquent à l'époque, il y avait une nourrice, il n'avait pas de quoi payer une nourrice. Et raconte la Gemara, il y a eu un miracle, et Dieu lui a mis deux seins, et il a allaité son fils. Ouais. Histoire racontée dans la Gemara. Gemara Shabbat, page 53. D'accord? Et là, attendez, regardez la suite de la Gemara. La Gemara, après, commente cette histoire. Elle commente. C'est une histoire qui s'est passée, c'est un fait. Ouais. Une vraie histoire, évidemment. Ah oui. D'accord? Et la Gemara commente cette histoire. Donc il y a un mec qui s'appelle Rav Yosef, qui dit, mais regardez comment est grand cet homme, que Dieu a modifié la nature pour lui. C'est quand même beau, quand même. Dieu lui a fait un miracle tellement grand, il doit, je veux dire, bon, Dieu, il aurait pu faire d'autres miracles, je veux dire, Dieu a fait un miracle tellement grand, cet homme devait avoir un grand mérite. D'accord? Et qu'est-ce qu'a répondu le maître Abayé? Et ça n'a pas été repoussé. Qu'est-ce qu'a répondu le maître Abayé? Le maître Abayé, il a dit, mais pas du tout. Il a dit, et je vous cite, Kama Garua Adamze. Combien est mauvais cet homme, enfin mauvais, ça veut dire en tout cas pas chanceux, chez Nishtanulu Sidre Bereshit, qu'on a dû changer à cause de lui les ordres de la création. C'est-à-dire que normalement, je vous dis que moi je comprends ce que dit Abayé. Normalement, le bonhomme il est là, bon, sa femme elle a laissé, il a pas de quoi nourrir. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait un homme lorsqu'il n'a pas de quoi nourrir son enfant? Qu'est-ce qu'il fait un enfant? Il va travailler! Maintenant, le bonhomme il a mis Dieu en galère. Il reste chez lui à la maison, il va pas demander d'aide. Donc, on peut pas aller chercher de l'aide. Il veut pas aller travailler. Donc, Dieu, il est en galère. Entre guillemets. J'ai dit, voilà, j'ai un gosse qui doit manger. Et son père, il va pas se couler de la manger. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, j'ai dit, bon, on va faire un miracle. On va lui mettre des seins, comme ça, il va donner à manger à son fils. Mais, dit Abayé, en vérité, c'est pas une preuve que l'homme est grand. C'est une preuve que l'homme est petit. Parce que, normalement, il n'y a pas besoin de ça pour donner à manger à un enfant. De là, le Rav Nissim, il a mis cette histoire, hein, pour te montrer à quel point on voit que la nature est chère à Kadosh Baruch Hu. Que Dieu n'aime pas faire de miracles pour rien. Et quand Dieu fait un miracle, c'est que vraiment il n'a pas le choix. Cette semaine, on va célébrer un grand miracle. D'accord? Le miracle de la guerre des six jours. C'est un miracle extraordinaire. Mais ce miracle, nous, on n'a pas demandé. C'est-à-dire, nous, on était là, on n'a pas dit à Dieu, bon, écoute, on est inconscient, on y va, vas-y, nous attaque, on verra, etc. Non, pas du tout. On s'est préparé, on s'est battu, et à un moment, on était là, pris à la gorge, avec toute la préparation qu'on a eue, techniquement, on sentait qu'on allait avoir matériellement, c'était impossible de gagner. On parlait de dizaines, de centaines de milliers de morts. Dieu préserve. Donc là, mais nous, on n'a pas cherché le miracle. On n'a pas dit directement à Dieu, ben écoute, fais nos miracles, on est là, on attend, vas-y, fais, on attend les effets spéciaux. Pas du tout. Parce qu'un juif, il doit travailler. Il doit se casser la tête pour dire comment je m'en sors de cette situation sans demander l'aide à Kadosh Baruch Hu. Seulement comme, malheureusement pour eux, on était bloqués. On a fait ce qu'on a se réparé comme on a pu, mais c'était impossible. Alors à Kadosh Baruch Hu, il a mis les bonnes idées au bon moment et on a eu le bon coup. Et vous savez, les choses, ça se joue à quelques secondes. Hein. Ça se joue à quelques secondes. Hein. Il suffit qu'une personne dise une chose, etc. Tout peut tomber, tout peut capoter. Et à Kadosh Baruch Hu, il a aidé, a fait un miracle. En six jours, on a gagné. Et jusqu'aujourd'hui, elle est retombée de ça. Jusqu'aujourd'hui. Si aujourd'hui on peut aller au Kotel, c'est grâce à ça. Et jusqu'aujourd'hui encore, s'il y a encore un certain respect d'Israël, et encore, bon, après ça, je ne rentre pas dans les débats géopolitiques, c'est grâce à ça. C'est quelque chose d'extraordinaire ce qui s'est passé. Ça, c'est un miracle. Mais c'est un miracle, on n'a pas cherché le miracle. Ça veut dire que Dieu n'aime pas faire de miracles. Dieu, il veut que ça tombe dans la nature. Quand il fait un miracle, c'est qu'il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, il faut faire un miracle. Donc, je reviens à la question. Ici, on a a priori un miracle. qui est vraiment inutile, a priori. Le miracle de l'écho, c'est un miracle qui sert à rien. Sauf qu'évidemment, si je vous pose une question, c'est que j'ai la réponse. Hein. Mon but, c'est de vous montrer qu'il est utile. C'est sinon. Donc, ce qu'on va essayer d'expliquer, c'est quelle utilité il y avait dans un miracle comme ça. Vous allez voir qu'on va devoir définir qu'est-ce que c'est un écho, comment ça fonctionne, et pourquoi il n'y avait pas d'écho. Est-ce que c'est un miracle? Est-ce que c'était pas un miracle? À quoi ça servait, etc.
Les autres aspects, ils étaient déjà miraculeux. L'écho, d'accord, c'est une voie naturelle.
Non.
Mais déjà la retransmission simultanée.
Mais ça, c'est un miracle qui sert à quelque chose.
Oui, pour que les autres.
Il a une utilité. Il y a une utilité. Ouais. Ça ne me dérange pas que Dieu fasse un miracle, mais il faut qu'il y ait une utilité. Ouais. Que Dieu fait un miracle qui ne sert à rien, ça ne sert à rien. Ça, c'est pas bon.
Pour l'écho, d'accord.
L'écho, il sert à rien, ce miracle. Il était bénéfique pour qui? Il a été bénéfique pour qui? Donc il y a un problème. Dieu, il y a bien une raison pourquoi il a fait ça. Oui, mais vous êtes d'accord que la voix de Dieu, c'était une voix, je veux dire, quand on, non, attention, la voix était audible. Ah oui, c'était une voix audible.
On n'a pas compris la première.
Si, on a compris. Bien sûr qu'on a compris. Non, on a compris, mais on en est mort, mais on a compris. C'est une voix qu'on a entendue avec nos oreilles. Attendez, qu'on soit clair. Il y a une voix qui est sortie de Dieu. Une voix... mais qui est sorti de Dieu, mais qui s'est exprimé chez nous comme une voix, comme une voix de parleur, comme une voix, quoi, une voix qu'on a entendue. Pas de question dessus. C'est une voix qu'on entendait avec nos oreilles. Une voix, une vraie voix. Le tonnerre était un vrai tonnerre, les éclairs étaient des vrais éclairs, la voix était une vraie voix. Et là, bizarrement, cette voix n'avait pas d'écho. Je me dis, mais pourquoi elle n'a pas d'écho? Pourquoi Dieu fait ce miracle? À quoi ça sert? C'est un miracle qui ne sert à rien, a priori. Bon. Alors, pour répondre à cette question, on va pas répondre tout de suite à la question. On va pas répondre tout à la question. On va d'abord, Bezrat Hashem, revenir, d'accord? Alors, je vous explique la suite du cours. Donc, je sais que vous attendez la réponse à la question, pourquoi la voix n'avait pas d'écho, c'est le titre du cours. D'accord? Sauf que vous allez devoir attendre un petit peu. Parce que pour répondre à cette question, dans la suite du cours, on va d'abord développer quelle était la nouveauté du don de la Torah. Qu'est-ce qui a changé au don de la Torah? Mis à part le fait que Dieu nous a donné la Torah et le spectacle qu'il y a autour de ça, qu'est-ce qui a vraiment changé au don de la Torah? C'est pour ça que je voulais faire ce cours aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a une idée qui va vraiment dans la lignée du Tania, pour expliquer qu'est-ce qui a vraiment changé avec le don de la Torah. Une fois qu'on aura compris ce qui a vraiment changé dans le don de la Torah, on expliquera la particularité des deux premiers miracles, le miracle de la voix qui se traduit simultanément, et le miracle du fait que les sages ont été inspirés jusqu'aujourd'hui. Et c'est seulement à la fin du cours, une fois qu'on aura compris tout ça, que là on arrivera à comprendre pourquoi Dieu a fait le miracle, la voix n'est pas d'écho. Donc on va falloir s'armer un peu de patience, mais Bezrat Hashem, on aura une réponse au bout du compte. On est prêt? Alors on y va. Donc maintenant, voilà, la question pour la voix n'est pas d'écho, on la met de côté, on la met en suspens. Maintenant on va essayer de se poser une question beaucoup plus générale qui est, quel était le but du don de la Torah? Pour comprendre le but du don de la Torah, et ce qui a changé au don de la Torah, on va commencer par analyser les 10 commandements. Vous savez, lorsqu'on veut analyser une phrase, une parole, un événement, très souvent, la clé se trouve dans le premier mot. Par exemple, imaginez quelqu'un, il vous parle. On dit, les commerciaux disent, d'accord, et les stratèges disent, que le premier regard, le premier mot, c'est toujours, le premier est très 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 important. C'est là, en vérité, que le message passe. Et si au premier mot, il y a eu un blocage, c'est très difficile à récupérer. Vous êtes d'accord, les communicants? C'est ce que tout le monde dit, on le sait ça. On sait que le premier regard, ça veut dire on investit beaucoup pour le premier regard. Bon. Maintenant, si vous voulez, on va s'arrêter. La question qu'on se pose, c'est la question sur les 10 commandements. Qu'est-ce qui a changé les 10 commandements? C'est vrai finalement, qu'est-ce qu'il y a? Bon, on a eu 613 commandements à part ça. En tout. Qu'est-ce sont tellement spéciales ces 10 commandements? Pourquoi tellement fait les 10 commandements, les 10 commandements? Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Il a dit, je suis l'éternel ton Dieu. D'accord, il est l'éternel. Très bien, il m'a annoncé qu'il est l'éternel mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a tellement spécial? Pourquoi on en fait tellement un drame? Qu'est-ce qui est tellement particulier? Alors, on va s'arrêter aujourd'hui sur le premier mot des 10 commandements. Et vous allez voir que la clé de la réponse se trouve dans le premier mot des 10 commandements. C'est quoi le premier mot des 10 commandements? Anochi. Anochi, ça veut dire quoi en français? Je suis. Je suis. Je suis l'éternel ton Dieu. Ça fait un peu bizarre de commencer les 10 commandements par je suis. Le mot je suis, ça veut dire voilà. Dieu commence à parler. C'est la première fois que l'humanité va entendre Dieu, et la dernière fois d'ailleurs. Première et dernière fois, pour la majorité d'entre nous, à part les prophètes. S'il y a un prophète ici qui se lève, d'accord? Donc c'est la première fois et la dernière fois que l'humanité va entendre Dieu. Et lorsque Dieu va parler, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va commencer le premier mot, je suis. Au passage, mais ça je rentre pas dedans maintenant, Anochi, c'est un terme en justement en égyptien. Et ça c'est une catastrophe ça. Parce que vous comprenez, enfin, catastrophe entre guillemets, parce que les enfants d'Israël, ils fuient l'Égypte. C'est pour eux l'Égypte, c'est l'impureté, c'est etc. Il faut fuir. Après Dieu il parle, il dit ah lui aussi. Mais bon, ça on met de côté. Anochi, c'est parce que comment on dit en hébreu je?
Ani.
Ani.
Ah oui.
Je suis.
Hein? Non mais non, pareil. Anochi c'est je. Ani Hashem Elokecha, c'est je suis l'Éternel ton Dieu.
Pourquoi?
Parce que
non, il y a pas de.
Le mot Anochi n'existe pas. D'ailleurs, en hébreu moderne, quand on utilise le mot Anochi, c'est considéré comme un terme égoïste. Alors, lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est Anochi, ça veut dire que c'est quelqu'un d'égoïste. On n'aime pas ce mot en hébreu. Égocentrique. Tout tourne autour de lui. Donc là, Dieu commence en disant Anochi. Je suis. Je. Dit la Gemara, dans le traité Shabbat, référence numéro 3, Anochi, et dit qu'en vérité, pour comprendre le mot Anochi, il faut décomposer le mot en 4 lettres. C'est un mot en 4 lettres. Aleph, Nun, Chaf, Yud. Et ces 4 lettres sont les initiales de 4 mots. Quels 4 mots? Dit la Gemara, référence numéro 3, Anochi. Donc le mot Anochi, Notrikun, c'est les initiales de Ana, Nafshi, Ktavit, Yehavit. Donc vous avez les 4 lettres, Aleph, Nun, Chaf, Yud, à savoir, moi, l'essence de moi-même, je l'ai donnée et je l'ai écrite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il nous annonce la couleur dans le premier mot des 10 commandements. Voilà comment explique la Gemara Shabbat. Dieu, il est en train de nous dire, ne croyez pas que je suis juste en train de vous parler. Non, comme moi, je parle à quelqu'un. Bon, je t'ai parlé. Je t'ai donné une instruction. Je t'ai délivré un message. Je t'ai donné un conseil. Je t'ai donné une idée. Non. Lorsque Dieu nous parle, c'est pas juste pour nous parler. C'est Anochi. Ça veut dire quoi? Dieu, il dit, moi, quand je vous parle, je vous donne mon essence. Ça veut dire que dans la Torah, dans les 10 commandements, d'accord? Dieu, il dit, je me donne à chacun de vous. Et chacun de vous, lorsque vous allez entendre les 10 commandements, c'est comme si que vous me prenez. C'est plus qu'imprégné. Dieu il dit, je donne mon essence à chacun de vous. Donc là, les gens commencent à comprendre l'enjeu. Mais c'est des grands mots, ça. Il faut qu'on développe. Ça veut dire quoi concrètement qu'il donne son essence à chacun de nous? On va continuer. En fait, le Pirkei de Rabbi Eliezer, explique. Il dit que c'est pas seulement à ceux qui étaient présents sur place physiquement que Dieu a donné son essence. C'est plus que ça. C'est toutes les âmes jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire nous tous, nous étions tous là.
Les âmes juives.
Les âmes juives. Alors, c'est écrit dans Pirkei de Rabbi Eliezer, « Ametim shebisheol » que lorsque Dieu a parlé, il a dit « Je suis l'Éternel ton Dieu », à ce moment-là, « Ametim shebisheol » les morts, qui étaient donc dans les abîmes, « Chayou » ils revécurent. En Égypte, il y avait beaucoup de monde qui était enterré. Tout le monde a survécu à ce moment-là. Après, ils sont retombés, mais ils ont survécu à ce moment-là. Ils ont revécu. Ve'amdou al-raglem, et ils se relevèrent sur leurs pieds. Et ils ont entendu les 10 commandements. Mais ce qui nous intéresse, ve'chol ha'atidim le'ibarot, ainsi que toutes les créatures qui allaient être créées. Donc nous, d'accord? Atsof kol adorot, jusqu'à la fin de toutes les générations. Sham amdou ima'em be'arsinai. Tout le monde était présent au Mont Sinaï. Ça, c'est écrit dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est un midrash de 54 chapitres qui a été composé par deux secondes. Je termine la référence numéro 3. Donc, c'est un midrash qui a été composé par Rabbi Eliezer ben Hyrcanus, encore une fois, de l'époque de la Gemara. Donc, ça veut dire quoi? Si je mets A plus B, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je lis dans l'écouté Sirot, Bematan Torah, au don de la Torah, Atzmuto Itbarech Mamash, l'essence divine même, Katav venatan et atzmo baseret adibrot. Dieu lui-même, il écrivit sa personne, son essence, dans les 10 commandements. Shama botasha, qu'il a dit à ce moment-là. Beambro, en disant, l'echol echad mi Israël, à chaque juif, bifne atzmo, individuellement, anochi hachem eloke ha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Pourquoi les 10 commandements sont au singulier, contrairement à la majorité de la Torah qui est prononcée au pluriel? Par exemple, vous prenez le schéma Ani Hashem et Lokechem, Asher Ratziti Etchem. Tout est au pluriel, je suis l'Éternel, votre Dieu. Pourquoi les 10 commandements s'est prononcé au singulier, je suis l'Éternel, ton Dieu?
Chacun individuellement.
Parce qu'en vérité, Dieu parla à chacun individuellement jusqu'à la fin des temps, en lui disant, je suis, moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis pleinement ton Dieu, que ton Dieu. Et chacun de nous peut dire, Dieu m'a donné toute son essence. C'est énorme ça. Ve'l'oracle ibn Israël chez Botod, hein. Et ça ne concerne pas seulement les enfants d'Israël de cette génération, seulement comme on l'a appris dans le Pirkei de Rabbi Eliezer, et là, les Chol Echad d'Israël, ça concerne chaque juif, en me adorot shekodamat en Torah, les juifs, les générations avant le don de la Torah, ve en mikrol adorot abayim, et aussi des générations, aussi des générations suivantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de là on apprend la chose suivante. On apprend que bien sûr qu'en vérité, voilà, Dieu a toujours parlé, c'est toujours Dieu qui parle. Mais là on apprend un message très très fort. C'est que Dieu il te dit Anochi Hashem Elokecha. Ce qui a changé au don de la Torah, c'est que jusqu'à maintenant, il y avait des messages qui transitaient d'en haut vers le bas. C'est des messages. Un message. Bon, un message, ça passe, ça vient, ça passe, etc. C'est pas une essence. C'est pas, il me donne pas son essence. Quand je communique avec quelqu'un, je lui donne pas mon essence, je lui donne un message. Je lui donne une partie de moi-même. Je dis voilà, je te donne un message, une partie comment moi je vois les choses. Mais je te donne pas mon essence, je donne pas moi, je donne pas moi à la personne. Je donne un message, une idée. À Kadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. À Kadosh Baruch Hu, il dit, le premier mot des dix commandements, et c'est ça la réelle innovation du don de la Torah, c'est que Dieu dit, c'est même pas comme le patriarche que je donne un message, une idée, une mitzvah. Là, c'est Anochi. Je me donne moi-même, je donne mon essence à chacun de vous individuellement, et pas seulement à ceux qui sont présents, à tous les juifs qui vivront jusqu'à la fin des temps. Cette idée que je viens de vous expliquer va nous permettre de comprendre trois enseignements qu'on va développer dans la suite du cours. Et les trois enseignements vont correspondre aux trois réponses du Midrash en ce qui concerne les miracles de cette voie. Mais je crois qu'il y avait des questions avant.
Ouais. Non, juste le parallèle. Pourquoi finalement aux Juifs, ça s'adresse à toutes les générations, toutes les âmes, et pour les Goïms, donc le message est passé également, mais il est passé qu'à la génération de ce moment-là.
Bon, c'est ça, parce que ça, c'est un miracle que Dieu a fait par rapport aux Juifs.
Je comprends. Que les Juifs. Mais c'est pourquoi il aurait été.
Je t'explique. Le problème est très simple. Voilà. Imagine-toi, par exemple, un juif aujourd'hui, en 2017, il lit les dix commandements. Oui. Et il lit, Dieu lui dit, je suis l'éternel ton Dieu. Oui. Il dit, bon, c'est bien beau, mais ça, il l'a dit à mes parents, ça fait 3300 ans. Mm-hmm. Moi, il m'a pas parlé à moi. Donc, je suis pas concerné.
D'accord.
Bon. Ça veut dire, comment tu peux te sentir concerné en disant qu'on parle de moi? Parce qu'il faut que le texte parle de moi aussi. C'est pour ça, on te dit, volontairement, on l'a dit au singulier, pour te dire que d'abord, j'y étais, chacun de nous, notre âme y était, pour te dire, Dieu, il a parlé à toi aussi, tu y étais. Et Dieu, il t'a dit à toi aussi, je suis l'éternel ton Dieu. Et il te l'a dit.
Quelle nécessité de passer au Goïm, finalement, cette période-là?
Non, ça, on va voir. Alors, très bonne question. Il pose une bonne question, il dit, mais dans ce cas-là, toujours bonne question. Il dit, mais dans ce cas-là, quelle est la nécessité de le passer aux nations?
Bien sûr.
Tu as raison. Donc là, en vérité, tu remets en question la réponse de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan qui a dit que la voie était traduite en 70 langues, très bonne question. Tu dis, mais finalement, à quoi ça sert?
Non.
Parce que finalement, nous sommes les destinataires principaux de la Torah. Pourquoi la Torah a besoin d'être traduite en français?
C'est pour nous.
Oui, j'ai compris, mais. Non, mais je comprends sa question. Sa question, il dit, mais.
C'est pas pour les nations, en fait, c'est pour nous qui.
C'est pas si simple. On va voir.
Il faut bien qu'elle témoigne que.
On va voir. Alors, en fait, oui.
Juste une remarque. On avait vu dans le Tanya au départ, Hachem, il avait créé Adam de manière parfaite.
Oui.
D'accord. C'est-à-dire que de cette âme-là qui était parfaite, cette âme, toutes les autres âmes juives allaient descendre.
D'accord.
D'accord. Donc ce qui veut dire que dès le départ, on peut peut-être supposer, hein, peut-être à tort, j'en sais rien, que ce message-là, cette voix, il lui a dit, je suis Anochi à Adam.
Oui.
Ce qui veut dire que les âmes, elles avaient déjà entendu ça, mais ça n'a pas été dévoilé. Et là, avec la voix, sans écho,
mais là,
ça s'est dévoilé
là,
pleinement.
La nouveauté qu'il y a ici, parce qu'on va avancer, la nouveauté qu'il y a ici, c'est que ce n'est pas seulement un message. Jusqu'à présent, c'était des messages que de donner. Là, ce n'est pas un message.
Parce qu'il savait tout.
Encore une fois. Lorsque je parle en général à quelqu'un, je transmets une information, ou une instruction, ou un message. Il y a un message qui passe d'un point A à un point B. Là, la nouveauté qu'il y a dans la Torah, c'est que Dieu, il dit, c'est pas un message que je vous donne. À la limite, le message, il va passer par Moïse. Parce que, finalement, qu'est-ce que nous, on a retenu? C'est des commandements, on n'a rien retenu, parce que, à peine on écoutait un mot de Dieu, on s'est venu ici, on mourrait tout de suite. Donc, finalement, on a retenu quoi? Ça sert à rien. Pourquoi, pour Dieu, c'était important de nous parler directement? Qu'est-ce qu'on a de ça? Je dis, on fait confiance à Moïse. On a envie de dire, bah écoute, voilà, Moïse va parler, il nous répétera. D'ailleurs, on l'a demandé. Parce que pour Dieu, c'était important, pas seulement de nous passer un message qui, lui, peut transiter par Moïse sans aucun problème. C'était important de donner son essence à chacun de nous individuellement. Et de la donner.
Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que Dieu, il te dit, je veux, moi, directement, te parler. Et je veux, en te parlant, me transmettre. Je veux me transmettre ma personne, mon essence à toi.
Ça veut dire quoi concrètement?
Concrètement, ça veut dire que Dieu il te dit, je me donne à toi.
Ça va au-delà du message.
Ça va au-delà d'un message. Je me donne à toi. Ça veut dire que maintenant, toi et moi, on forme un seul corps.
Tant que Dieu s'est donné à toi.
Évidemment. Comment tu crois qu'on tient jusqu'à maintenant? Comment tu crois qu'on tient jusqu'à maintenant?
Ah oui, mais c'est
vrai. Bah oui.
D'accord.
Avant le matin de Torah.
Évidemment que ça n'a rien à voir.
Donc ça veut dire qu'avant le matin de Torah, on a une neshama qui est la même neshama que toutes les nations.
Moi, je ne rentre pas dedans. Je ne rentre pas dans ces questions.
Donc ça veut dire qu'on change de neshama?
Non, j'ai pas dit ça. Ça veut dire qu'on a eu une mise à jour. On a eu un surclassement. Ouais, ça n'a rien à voir. Upgrade, ça n'a rien à voir.
Supplémentaire.
Avant, on recevait des messages de Dieu. Là, Dieu dit, maintenant, je rentre en vous. C'est autre chose. C'est-à-dire que chacun de nous a Dieu en lui. Alors, attendez. Nous avons maintenant trois enseignements qu'on doit tirer de ça. Et vous allez voir que progressivement, on va arriver à la voie qui n'est pas d'écho. Premier enseignement est très simple. Je vais l'expliquer à l'oral, celui-là. Pourquoi il était important de dire que toutes les paroles que les prophètes ont prophétisées jusqu'à la fin des temps, ce sont des paroles, comme on a dit, qui viennent en vérité de cette première voie. C'était donc la deuxième explication. C'est pour t'apprendre un message très important. Tu dis, ne fais pas l'erreur de penser que les 10 commandements, ça c'est la parole de Dieu. Ça, Dieu il nous a parlé. Et autre chose, bon, un rabbin qui parle aujourd'hui, bon, c'est pas forcément Dieu qui parle. On aurait pu penser comme ça, c'est vrai. On aurait pu dire, écoute, 10 commandements, c'est derrière dans la tête beaucoup de gens. 10 commandements, 10 commandements, 10 commandements, 10 commandements. 10 commandements, on touche pas. Pourquoi? Parce que dans la tête des gens, les 10 commandements, c'est Dieu qui nous a parlé. Ça, on touche pas. Mais va lui dire maintenant, tu sais, en vérité, il y a une suite. Après, il y a ce que Moïse nous a répété. Il dit, ah bon, c'est Moïse. Bon. Alors, après, il y a les rabbins qui ont commenté ce que Moïse a dit. Ah ben, les rabbins, ils ont commenté ce que Moïse a dit. Ah bon, d'accord. Ça, c'est le chidouche de Resh Lakish. Il te dit, ne fais pas l'erreur de penser que ce nouveau phénomène, cette innovation du don de la Torah, que Dieu m'a donné son essence, s'est arrêtée seulement pendant le moment des 10 commandements, et qu'après, l'histoire a repris son cours et qu'on a eu des rabbins, etc. Pas du tout. C'est une erreur. Ce phénomène continue jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire que jusqu'aujourd'hui encore, lorsque j'étudie un texte de Gemara, lorsque j'étudie un texte de Chumash, lorsque j'étudie une Mishnah, lorsque j'étudie un Tanya, c'est la continuité de la parole, de l'essence de Dieu, qui est en train de rentrer en moi. Ça, c'est un message très fort. Ça veut dire, on comprend pourquoi c'est un miracle qui n'était pas du tout inutile, ce miracle. Dieu, il te dit, je veux te montrer que cette voix va influencer les prophètes et tous ceux qui vont dire des mots de Torah jusqu'à la fin des temps. Seulement quoi? Dieu te dit, il y a un temps pour tout. Il y a des choses qu'on a pu dévoiler maintenant, en 2448. Il y a des choses qu'on a pu dévoiler que plus tard, comme la Mishnah. Il y a des choses qu'on a pu dévoiler que encore plus tard, comme la Gemara. Il y a des choses qu'on a pu dévoiler que encore plus tard. Et chaque chose a son temps. Il y a des choses comme la chassidoute qu'on a pu dévoiler qu'il y a 300 ans. Mais c'est pas parce qu'on l'a dévoilé qu'il y a 300 ans que ça veut dire que ça n'était pas au don de la Torah. C'est une continuité directe et c'est un produit de l'essence de Dieu qui était au don de la Torah, sauf que le temps n'était pas encore venu de le dévoiler. Donc finalement, on ne fait aujourd'hui que dévoiler des choses qui étaient déjà dites au don de la Torah mais qui n'ont pas été dévoilées. C'est-à-dire, on repasse. À chaque fois qu'on repasse, on retrouve et on découvre des nouveaux éléments, des nouveaux détails, des nouvelles informations, mais qui ne sont pas nouvelles en vérité. Non. Qui ne sont pas nouvelles. Comme dit la Gemara nous dit tout ce que un élève dira jusqu'à la fin des temps, tout a déjà été dit à Moïse au Mont Sinaï. Pourtant, Moïse, c'est impossible qu'il ait tout appris. Aujourd'hui, il y a tellement de dizaines et de centaines de milliers de livres. Comment c'est possible que Moïse ait tout appris? On dit non. Moïse, on lui a donné les bases. Mais après, quand tu repasses, tout ce qu'on va découvrir, en vérité, ça fait partie de l'essence. Et donc ça, c'est un message très important de Emouna pour nous rappeler que chaque chose a son temps, mais qu'il faut savoir que chaque mot de Torah qu'on étudie, même ce qui ne fait pas partie directement des 10 commandements, fait partie de la prophétie divine, donc de l'essence divine qui a été donnée au don de la Torah par Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que dans chaque mot de Torah qu'on étudie, il y a l'essence d'Akadosh Baruch Hu qui est dedans. Ça, c'est la grande innovation du don de la Torah. Oui, il y avait des questions. Oui.
Oui, ça veut donc dire que ceux qui vont recevoir au bon moment, c'est-à-dire en son temps,
oui.
Il faut qu'il soit prêt.
Bien sûr. Après, encore une fois.
S'il y a un décalage, ça ne va pas marcher.
Comment tu peux expliquer, par exemple, qu'il y a des fois un produit qu'on utilise dans une entreprise pendant des années, et qu'on l'utilise, bon, comme ça, ça tourne, ça fonctionne, et qu'à un moment, il y a une personne qui a utilisé comme tout le monde, et à un moment, il y a un déclic. À un moment, il dit, mais attends, pourquoi on ne fait pas ça comme ça? Pourquoi ce déclic est arrivé à ce moment-là? Pourquoi il n'est pas arrivé plus tôt? Maintenant, il dit, bon, c'est un coup de chance, c'est un coup de peau. Non. Parce que c'est le moment où l'information devait arriver. Maintenant, en vérité, l'information était toujours là. Parce que l'information était toujours là, mais personne l'a relevé. C'est la même chose. C'est-à-dire tous les chidouches. Imaginez par exemple aujourd'hui, je découvre un nouveau chidouche que personne n'a jamais vu depuis la création
du
monde.
Tu l'as dit, c'est une découverte.
C'est pas une invention. Exactement. Je n'invente rien. Et c'est très important à comprendre ça, de comprendre que tout ce qui est dit, même aujourd'hui, on n'invente rien. On fait que découvrir. Découvrir ce qui a déjà été dit au Mont Sinaï, c'est-à-dire que dans chaque mot de Torah qu'on écoute, peu importe la variété de Torah qu'on a, dans chaque mot de Torah qu'on écoute, il y a une partie de l'essence d'un Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est mon problème. Oui. D'accord.
Sinon, s'il est déjà plein.
Mais c'est déjà un message très important. Donc là, on comprend comment ce miracle que Reish Lakish a dit, le fait que, ça veut dire quoi? Kol Gadol Velo Yassaf, une voix sans y rien ajouter. Ça veut dire que de cette voix, tous les prophètes et les maîtres vont prophétiser et enseigner jusqu'à la fin des temps. C'est pas un miracle inutile. C'est un miracle très important pour nous montrer que chaque mot de Torah qu'on a vient de l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et encore une fois, quand on est dans la génération dans laquelle on vit, on comprend à quel point c'est important de dire que tout vient d'Akadosh Baruch Hu.
Mais c'est pas si simple que ça, parce que parfois, du reste, devant une découverte, d'autres décisionnaires ou d'autres disent que c'est faux et on donne une autre interprétation.
Tous discutent, j'ai compris.
Voilà, oui, mais ça, ce qui pose problème.
Mais déjà, arriver à la conclusion, c'est un postulat en vérité, qu'on n'invente rien. Parce que finalement, c'est ça, les gens qui s'attaquent aux rabbins. Ils disent, pourquoi les rabbins, ils ont inventé ça? Les rabbins n'ont rien inventé. Ils ont découvert. Tu peux discuter une découverte. Si tu étais à cette époque-là, tu aurais pu discuter. D'accord? Aujourd'hui, tu peux discuter avec les rabbins d'aujourd'hui. D'accord? Si je vivais il y a 2000 ans, j'aurais pu discuter avec les rabbins il y a 2000 ans. Aujourd'hui, je dois accepter ce qu'ils ont dit il y a 2000 ans. Aujourd'hui, s'il y a un rabbin d'aujourd'hui qui dit quelque chose, je peux discuter avec lui. Parce que je lui dis, toi, tu prétends avoir découvert ça. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense qu'il faudrait plutôt découvrir ça. Ça, on peut discuter. Pas de problème.
Donc, c'est comme ça que tu justifies la marque locataire.
Bien sûr. Mais c'est des découvertes. C'est pas des inventions. Un rabbin n'invente pas. Dans la Torah, on peut pas inventer. T'as pas rien inventé. Donc voilà le premier message. Dieu a donné une voix. Une parole. Et de cette parole, c'est une parole qui va inspirer, et surtout de cette parole vont découler toutes les paroles de Torah jusqu'à la fin des temps. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ce miracle. Maintenant, on va continuer là-dessus parce qu'il faut qu'on avance. Rappelez-vous, une autre réponse était quoi? C'est que la voix se divisait en 70 langues. Et il va poser une bonne question. Il a dit, mais à quoi ça sert? À quoi il sert ce miracle? À l'époque, les Juifs parlaient en quelle langue?
En hébreu.
En hébreu. Non, mais à l'époque où on a reçu la Torah, ils parlaient en quelle langue? En hébreu. D'accord. Alors, puisque à l'époque, il parlait en hébreu, pourquoi t'as besoin d'être... Pourquoi un Français en 2448 avait besoin d'entendre la Torah?
Pour nous, aujourd'hui.
Non, pour nous, c'est une autre question. Je parle déjà pour eux à l'époque.
Non, mais on dit que...
Pour eux à l'époque. Alors, en d'autres termes, je vais retourner la question un peu différemment. Quelle est l'obligation que nous avons en tant que juifs par rapport aux nations? Est-ce que nous devons chercher principalement à développer notre religion, notre judaïsme, et investir ce qu'il faut pour vivre en bon terme avec les autres, et ça s'arrête là. Ou est-ce que nous devons chercher à influencer les autres?
On n'est pas prosélytes.
J'ai pas dit influencer, j'ai pas dit convertir. Alors écoutez bien ce que dit Maïmonide. Et là, vous allez voir comment ce que dit Maïmonide. Avec ça, on va comprendre pourquoi la Torah devait être traduite en 70 langues. Deux secondes, j'explique. Tziva Moshe Rabbeinu Mipi Hagvura, référence numéro 5. Moïse a reçu l'ordre de Dieu. Lachof et kol baya olam. De contraindre, donc Moïse a reçu l'ordre de Dieu, de contraindre tous les humains. Les kabel mitzvot shenistavu pene noir. A accepté le commandement prescrit aux descendants de Noir. Ils ont que 7 mitzvot. Dieu a donné l'instruction à Noir de faire tout ce qui est dans son possible pour que toute l'humanité fasse cette Noirite. Kol amekabel sheva mitzvot nizar lasotam. Quiconque accepte et pratique ces commandements, arezem echasilu umotaolam, fait partie des justes parmi les nations. Veyesh lo chelek le mabah, et il a une part au monde futur. Vehu sheyekabel otam, à condition qu'il les accepte, veyaseh otan, et qu'il les pratique, mipnei shetziva ba'em akadosh ruba Torah, parce que Dieu leur donnait dans la Torah. C'est pas qu'il les pratique parce qu'il a envie de le faire, il les pratique en tant que croyance. D'accord? Ça veut dire que, c'est très clair ce qu'il dit, c'est Maïmonide. Il dit que, un non-juif qui accomplit les 7 lois noachides, on doit le convaincre à les accomplir, à faire 7 lois noachides, parce qu'elles ont été écrites dans la Bible. La Bible qui a été reçue par nous. Qui a été reçue par Moshe Rabbeinu. Ça veut dire, de là, on a un message très très clair, que nous avons un rôle, d'accord,
d'influence
envers les nations. D'accord? On aurait pu penser que voilà, l'histoire du don de la Torah, c'est une affaire privée qui nous concerne qu'à nous. On est dans le désert, c'est un événement privé, donc celui qui n'est pas concerné, il est dehors. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? D'abord, il fait une voix qui s'étend dans le monde entier. Pour dire, c'est pas seulement un événement anecdotique et surtout un événement individuel pour nous les Juifs. C'est un événement mondial, universel, qui concerne tout le monde. Et quand je dis tout le monde, c'est pas que les Juifs. C'est le monde entier. Pour qu'on ne pense pas que la Torah concerne uniquement, et que le message de la Torah concerne uniquement les Juifs et ne concerne pas les autres, qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il dit, on va traduire les 10 commandements en 70 langues. Pour que toutes les nations vont comprendre, les Juifs vont comprendre et les nations vont comprendre qu'il y a un message ici qui doit faire des efforts. Alors, les Juifs vont comprendre qu'ils doivent transmettre ce message aux nations. Principalement, le message, d'abord, des 10 commandements, mais en général, le message des 7 lois noachides. Et que les nations comprennent qu'on parle d'eux aussi. Et que la raison pour laquelle ils vont accomplir ces mitzvot, c'est pas seulement parce qu'ils les ont pensés ou parce que Mahomet leur a dit, d'accord, ou un autre, mais c'est parce que Dieu l'a ordonné à Moshe Rabbeinu. Donc voilà une première raison, deux secondes, parce que j'ai deux éléments. Voilà une première raison pour laquelle la Torah est traduite dans 70 langues. Simultanément, à ce moment-là, alors que tout le monde comprenait l'hébreu. Un juif de l'époque n'avait pas besoin, il comprenait pas le chinois. Tu poses la question à un juif de l'époque, tu sais, la Torah, dès qu'elle est passée par la Chine, le 10 commandements, c'est venu en chinois. Tu dis, mais je comprends pas le chinois, pourquoi c'est traduit en chinois? Quel rapport au chinois maintenant? Parce qu'il y a un message, on te dit, pour que tu comprennes parfaitement que ton rôle, c'est d'enseigner la Torah au chinois aussi. La Torah, pas les 113 mitzvot. Les 7 lois noachides, telles qu'elles sont écrites dans la Torah. C'est ton rôle, c'est ton devoir. C'est pour ça que Dieu dit, je traduis la Torah en toutes les langues, les 10 commandements, pour que tout le monde comprenne. Mais il y a un deuxième message. Il y a un deuxième message très important, monsieur, à quoi ça touche à ça. Et ça, ce message s'adresse pas aux goyim, s'adresse à nous les juifs. Nous les juifs qui vivons en diaspora. Et qu'aujourd'hui, dans les faits, le cours que je donne aujourd'hui est en quelle langue? Il est en français. Et donc, on pourrait se dire, bon, on fait un cours aujourd'hui en français. Alors, est-ce que le cours en français a la même valeur que si ce cours était en hébreu? Vous savez, par exemple, chez les arabes, par exemple, les vrais, d'accord? Quand ils font des cours de Coran, c'est en arabe. Et ils ont raison, la vérité. Normalement, on aurait dû faire les cours d'hébreu, les cours de Torah seraient dû être en hébreu. On aurait dû passer, passage obligatoire, c'est apprendre l'hébreu, et après on fait les cours en hébreu, c'est tout. Pourquoi on fait pas des cours en hébreu ici? Allez, ouais. Torah Masbira, hein. Ça n'y a pas le temps, c'est pas une réponse. T'inquiète pas, on radicalise, y'a pas de problème.
On est pressé.
Pourquoi? Surtout, la question que je dois poser, c'est une question même plus profonde. Pourquoi Dieu a fait que dans la réalité, aujourd'hui, il y a des centaines de milliers de juifs dans le monde qui étudient la Torah en français? Si Dieu voulait que la Torah soit étudiée en hébreu, il serait arrangé pour qu'on connaisse l'hébreu. Donc c'est clair qu'il y a une volonté de la part de Dieu quelque part que la Torah soit étudiée aussi en français. Pourquoi Dieu veut que la Torah soit étudiée en français aussi? Alors écoutez bien cette Gemara. Dit la Gemara dans la référence numéro 6. Lo igla akadosh baruch hu et Israël ben haumot et la kedesh yitvasfu elehem gerim. Dieu n'a exilé Israël parmi les nations que afin que des convertis se joignent à eux. Alors c'est qui les convertis? Alors les convertis, on comprend, les convertis, c'est les convertis, ceux qui se convertissent. La Chassidoute a dit pas du tout. Les convertis, c'est pas seulement les hommes et les femmes qui se convertissent. Les convertis, c'est dans le sens des choses qu'on convertit, qu'on récupère. Il y a des étincelles de Kedusha. Vous savez que lorsque Dieu a créé le monde, il y a eu ce qu'on appelle la brisure d'Eva, je ne rentrerai pas dans les détails, mais dans les faits, il y a de l'énergie et des étincelles de Kedusha qui se trouvent un peu partout dans le monde. C'est pas que chez les Juifs. Donc par exemple, dans le latin, il y a une énergie qui est positive. Par exemple, il y a peut-être des nuances dans le latin, dans le français, pour nous, parce que c'est une langue latine, il y a peut-être une façon particulière d'enseigner la Torah en français qui est irreproductible en hébreu. C'est-à-dire qu'imaginez, par exemple, moi, je parle parfaitement hébreu et français, je peux vous dire qu'il y a des choses qui passent qu'en français. Il y a des mots, des nuances qui passent qu'en français. Il y a des choses ici qui passent qu'en hébreu. Donc, alors attendez, justement, on te dit que pourquoi Dieu nous a exilés? Parce que finalement, on était bien en Israël. Et s'il voulait nous punir, il aurait pu nous punir en Israël. On n'avait pas besoin d'aller en France pour être puni. Pourquoi Dieu nous a exilés? Qu'est-ce que lui, il a récupéré de ça? S'il veut nous punir, punis-nous en Israël. Bon, puis nous, on a un tyran, on parle en hébreu encore. Pourquoi il est besoin de nous punir? Pourquoi il est besoin de nous punir, de nous exiler, que dans les faits, on est exilé, on part partout dans le monde? La réponse est très simple. Dieu nous a exilés parce qu'il y a un but derrière. Mis à part le fait qu'on est puni et qu'on est exilé, mais il y a un but derrière, c'est qu'au passage, c'est pas seulement représentant, au passage, on va récupérer des choses. On va récupérer des choses. On va récupérer les énergies. Il y a des énergies qui sont perdues un peu partout dans le monde. et on va les récupérer. Donc de la même façon, par exemple, aujourd'hui, si on est en France, si aujourd'hui on est encore en France, il y a des pays dans le monde dans lesquels il y avait des juifs. Prenez l'Espagne, par exemple. Il y avait des juifs pendant des siècles, ouais. Et maintenant, il n'y a presque plus personne. Enfin, il y en a, mais presque. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus beaucoup. Ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. Pourquoi? Parce que la masse d'énergie qu'on devait récupérer a principalement été récupérée. Une fois qu'elle est récupérée, Dieu fait que, hop, on s'en va.
Tu dis en étudiant dans la langue du pays?
Ah, par exemple. Ou déjà même en étudiant dans un endroit. Là, par exemple, en utilisant l'air de l'espace qui s'appelle Paris 13e. J'utilise un air que je respire, qui a une particularité, qui a une singularité. L'air de Paris 13e n'est pas l'air de Paris 19e, n'est pas l'air de Tel Aviv, n'est pas l'air de... c'est un air différent. Donc, aujourd'hui, si je respire l'air de Paris 13e, je suis en train de récupérer l'énergie de l'air de Paris 13e pour l'amener vers un Kadosh Baruch Hu. Mais là, je parle pas de la main, là, je parle de la langue. Pourquoi Kadosh Baruch Hu fait que, dans les faits, les Juifs parlent en toutes les langues et que des cours de Torah sont faits dans toutes les langues? C'est la réalité. C'est pas une lacune. Ce n'est pas une lacune. Il y a une raison pour laquelle Dieu a fait que les cours de Torah sont donnés dans toutes les langues, notamment en français. Parce qu'aujourd'hui, lorsque je vais utiliser des mots de français pour dire un mot de Torah, je récupère l'énergie. Il y a une énergie dans les nuances, dans la grammaire, dans la façon de faire, etc., dans le style. Je récupère l'énergie du style de la langue française, je le récupère pour un Kadosh Baruch Hu. Et donc ça nous explique pourquoi Kadosh Baruch Hu, c'était important pour un Kadosh Baruch Hu de traduire la Torah en 70 langues simultanément, en temps réel, quand ça s'est passé. Pour deux raisons. D'abord, pour nous montrer que nous avons un rôle, même à l'époque, de transmettre aux autres, aux 70 peuples qui représentent 70 nations. Mais aussi pour nous donner un message qui peut-être nous parlait pas tout de suite, mais qui allait nous parler des années plus tard, des millénaires plus tard, aujourd'hui donc, de savoir qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait un cours de Torah en français, d'abord, ça s'appelle parfaitement une étude, c'est une étude de Torah. On appelle ça de la Torah. On n'est pas des koufars quand on fait un cours de Torah en français. C'est une vraie étude de Torah. D'accord? Hein? C'est une vraie étude de Torah, on étudie la Torah, et au contraire, non seulement que ce n'est pas une lacune, mais il y a même une qualité dedans. Attention, je ne vous encourage pas à ne plus utiliser la langue sacrée, c'est pas ce que je vous ai dit. Je vous encourage à essayer, c'est pour ça que dans le support que vous avez devant vous, il y a de l'hébreu et du français. Hein, je veux vous regarder, et moi je l'ai en hébreu parce que je veux vous regarder l'hébreu. Mais, si le cours est donné en français, c'est parce que Dieu veut au passage qu'on récupère l'énergie qui est dans la langue française, et qu'on la ramène vers la Kadosh Baruch Hu. Ça c'est l'histoire de 70 langues. Donc on a déjà récupéré deux enseignements. Rappelez-vous, la voix sans rien y rajouter, on avait l'explication de Rashi que j'ai mis de côté, on avait trois explications. Là j'ai expliqué l'enseignement de deux explications. L'explication qui a dit que de cette voix, toutes les voix ont été inspirées jusqu'à la fin des temps, c'est pour nous montrer que de la même façon que Dieu s'est investi, qui a donné son essence au don de la Torah, de la même façon cette essence perdure jusqu'à aujourd'hui, chaque mot de Torah que je dis, il y a l'essence de Torah dedans. C'est le premier enseignement pour nous, qui est vraiment actuel. Et deuxième enseignement, c'est l'enseignement que chaque mot que Dieu disait était traduit simultanément en 70 langues pour nous apprendre que nous avons un rôle d'enseigner les 7 langues noires et aux autres, et que, de notre côté, nous aussi, lorsque nous faisons un cours de Torah dans toutes les langues, nous récupérons l'énergie de ces langues. Seulement, maintenant, on revient à la question. Oui.
Non, finalement, ça explique que ce n'était pas nécessaire de transmettre à toutes... Donc, le message était également pour les nations, mais c'était également pour les Juifs.
Évidemment, voilà.
Il n'y avait pas nécessité de transmettre...
Si, parce qu'il fallait montrer aussi le message aux Juifs, que les Juifs doivent transmettre aux nations, et que les nations doivent accomplir les 7 lois noachides, non pas parce qu'un Mahomet leur a dit...
Mais le message...
J'ai pas fini, écoute bien. Mais parce qu'il y a une référence divine qui vient de chez nous, de Moïse.
Mais le même message...
C'est pour ça qu'à la source qui est Moïse, la Torah, le mont Sinaï, de cette source Dieu envoie aux nations pour leur dire... Regardez la source, c'est ici que ça se passe. C'est là. Même vos 7 lois noachides, ça vient d'ici.
Mais qu'il était qu'à cette génération.
Qu'à cette génération.
Comme il est par des 112 générations, finalement, le message...
Non, mais c'était la mission des Juifs.
J'ai compris. Ça, c'est pour donner un message aux Juifs, pour les générations d'après, c'est ce que dit Maïmonide. Pour dire maintenant, notre rôle, c'est de transmettre les 7 lois noachides. C'est-à-dire que nous avons un rôle de diffuser ça autour de nous. Diffuser aux nations autour de nous, de leur expliquer que faut pas voler, qu'il faut pas tuer, qu'il faut croire en Dieu, des choses basiques. Des choses basiques. Bon, maintenant, il faut qu'on arrive, parce qu'on a un approche de l'heure, et il faut qu'on arrive maintenant à la question qu'on a posée au début du cours. Pourquoi la voix n'avait pas d'écho? Quelle était l'utilité? Et surtout, quel est l'enseignement? Pourquoi la voix n'avait pas d'écho? Et là, le rabbi dit un chidouche extraordinaire. D'accord? Très simple. Vous allez voir, c'est tellement simple qu'on va se demander comment on n'y a pas pensé. Référence numéro 7. Alors, il dit la chose suivante. Je vais vous expliquer à l'oral. Il dit, c'est quoi l'écho? C'est quoi un écho? Un écho, c'est la réflexion. Par exemple, lorsque je vais dans un endroit, voilà, je vais par exemple dans un désert ou des montagnes, d'accord? Et que je vais parler. Pourquoi il y a un écho? À quel moment commence l'écho? Parce que la voix, elle va taper un obstacle, et donc ça revient. Maintenant, plus la voix est forte, Et plus l'écho est fort. D'accord ? Maintenant, est-ce que vous avez déjà été dans un studio ? Un studio d'enregistrement ?
Ah, ils isolent tous les murs.
Vous mettez les baffes à fond, etc. Est-ce qu'il y a un écho ?
Non.
Sinon, votre studio n'est pas bon.
Le voix est arrêté.
Pourquoi il n'y a pas d'écho ? Attendez, pourquoi il n'y a pas d'écho ?
Parce que
le son ne réfléchit pas.
Voilà, il est absorbé.
Le son n'est pas réfléchi, le son est absorbé. Alors, par ce que vous voulez, ça peut être par des
boîtes d'œufs.
Par des boîtes d'œufs, choses comme ça, mais en tout cas, ça absorbe. Ça absorbe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le rabbi nous dit, quand on analyse en physique, on voit que le phénomène de l'écho est un phénomène qui intervient seulement si la matière forme un barrage, un obstacle au son, d'accord ? À la voix qui est dite. Mais si c'est pas un obstacle, ou bien ça absorbe, un des deux. C'est-à-dire s'il n'y a pas d'obstacle déjà, ça avance. Et si ou bien ça absorbe, et bien dans ce cas-là, il n'y a pas d'écho. Maintenant, dit le rabbi la chose suivante. Il dit, maintenant, imaginez-vous, Dieu, il parle. Est-ce que d'après vous, quand Dieu, il parle, il y a un élément dans le monde qui peut faire obstacle à Dieu ? Évidemment, non. Pas seulement ça. Non seulement qu'il ne fait pas obstacle, mais il absorbe. Chaque élément du monde, imaginez par exemple, voilà, on est au Mont Sinaï, et il y a une autre montagne à côté. Donc, normalement, il doit y avoir un écho. Pourquoi il n'y a pas d'écho ? Parce que d'abord, la montagne qui est à côté ne fait pas obstacle à la parole de Dieu. Donc, il n'y a pas d'écho. Mais plus que ça, pourtant, il y a bien une montagne, il faut bien comment ça fonctionne. Mais là, c'est pas compliqué. En vérité, cette montagne, elle absorbe la parole de la Kadosh Baruch Hu, parce qu'il n'y a rien qui est un obstacle à la parole de la Kadosh Baruch Hu. Donc, puisqu'elle s'imprègne et qu'elle absorbe la parole de la Kadosh Baruch Hu, donc, il n'y a pas d'écho. Et donc, c'est pas un miracle. C'est la réponse. C'est pas un miracle. La question depuis tout à l'heure, on dit, mais pourquoi, à quoi il sert le miracle ? C'est quoi la réponse du rabbi ? Il dit, c'est pas un miracle. C'est pas un miracle.
Rien ne s'oppose.
Ouais. C'est que le message était que lorsque Dieu il te parle, le message est tellement puissant que rien ne peut s'opposer. Pourquoi aujourd'hui, quand je parle à quelqu'un de Torah, je peux avoir une opposition ? Parce que je suis pas Dieu. Comment ? Moi, je suis là, je tiens un message, bon, on peut avoir une opposition. Mais imaginez, par exemple, déjà, imaginez que cette même personne, c'est pas moi qui lui parle, c'est le rabbi qui lui parle. C'est un tzaddik qui lui parle. Là, tout de suite, le bonhomme, il a plus de mal à être résistant. Parce que, tu comprends, il a du mal à ne pas absorber cette kedusha. À quel moment tu fais de la résistance ? Ce que je fais de la résistance, c'est que tu m'envoies une lumière, tu vois, Serge, il est en train d'essayer de me convaincre de devenir religieux. Donc Serge, il essaie de me convaincre, tu vois. Et moi, je suis là, je suis résistant. Ah, je suis résistant. C'est-à-dire que je fais barrage. Mais c'est dur à faire barrage à un tzaddik. Tu peux pas faire barrage à un tzaddik. Le tzaddik, il a une lumière tellement grande qu'il te pénètre. Maintenant, imaginez si c'est pas un tzaddik, encore plus, c'est Dieu. C'est Dieu qui te parle. Tu crois qu'il y a une entité, un élément dans le monde qui peut faire barrage à Dieu ? Il peut dire non, moi j'absorbe pas, moi je suis imperméable, moi je prends pas ce que Dieu dit. C'est impossible. C'est impossible. Donc c'est la raison pour laquelle, nous dit le rabbi, il nous dit la chose suivante, il nous dit en vérité ce qu'on apprend d'ici, c'est que lorsque Akadosh Baruch Hu il a donné la Torah, il n'y a aucun élément dans le monde qui pouvait former un obstacle à la parole, qui pouvait faire un obstacle à la parole d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, il faut le savoir, ce phénomène continue jusqu'aujourd'hui. Lorsqu'aujourd'hui j'étudie un mot de Torah, à côté de moi, j'ai une feuille. Devant moi, j'ai une table. Là, j'ai un mur. D'accord ? Là, j'ai un verre. Ce sont des éléments qui absorbent. On le sait en physique, ça. Ce sont des éléments qui absorbent.
Une partie.
Justement. Alors, on aurait pu penser une partie. D'accord ? Et bien là, j'apprends un chidouche. Et vous allez voir que je vais vous montrer la référence après dans la Gemara. Qui dit qu'en vérité, le même phénomène qui s'est passé avec la parole d'Akadosh Baruch Hu au Mont Sinaï, que... C'était une parole qui était tellement forte qu'aucun élément dans le monde pouvait former un obstacle. Et donc, chaque élément dans le monde était absorbé de cette parole. Ce phénomène continue à se passer maintenant. Chaque fois que nous disons un mot de Torah, la parole de Torah absorbe le monde. Écoutez bien ce que je vous montrais, c'est ce que la Gemara qui le dit. Attends, écoute, la deuxième partie. La deuxième partie de la référence numéro 7. La Gemara nous dit la chose suivante. Elle nous dit, Shema Yomar Adam. Peut-être un homme va dire, Mimeidbi, qui témoignera de mes agissements ? Personne ne m'a vu. Avne beto shel adam ve korot beto shel adam meinim. Les murs et les poteaux de sa maison témoigneront. Chez Neymar, non mais là ils ont pas des oreilles, ils ont des yeux. Ils ont des yeux et ils absorbent tout. Les enregistreurs. Chez Neymar, comme il est écrit dans Habakkuk, Even Mikir Tizak, la pierre dans le mur crie, ve chafis me et yanena, et le chevron dans la charpente lui répond. Ça veut dire qu'en vérité, nous on se rend pas compte, mais lorsque ma chère viendra, tout va commencer à parler. Parce qu'en vérité, il parle maintenant déjà. Ça veut dire que chaque mot de Torah que je dis, après, alors là, attention, vous allez dire oui, mais c'est la même chose pour les bêtises que je dis. Non. Parce que les bêtises que je dis vont imprégner la matière jusqu'à une certaine limite. C'est à un moment, ça s'arrête. Mais les mots de Torah que je dis, eux, ils imprègnent la matière sans fin, jusqu'au fond. Mais je le vois pas. Et lorsque ma chère viendra, que Dieu va nous ouvrir les yeux, je dis, waouh, j'aurais pas pu parler un peu plus ce jour-là.
Toutes
les synagogues, là, vous voyez, c'est de la matière qui est imprégnée, D'ailleurs, on raconte, là, je termine. La Gemara, elle raconte dans le traité de Talmud Yerushalmi que Maklo Sharabimir était Beyado. La Gemara, elle raconte que, une fois, il y a un ancien qui a apporté une halakha, qui a dit une halakha. Bon. Et on lui a posé la question, il dit, mais d'où tu sors cette halakha? Alors, il lui a dit, vous savez d'où je sors cette halakha? J'ai le bâton de Rabimir dans ma main. Rabimir Balanes. On a dit, c'est quoi ce bâton? On sait que Rabbi Meir Balanes, partout où il se baladait, il avait un bâton, une canne. Et quand il est parti de ce monde, il y a un ancien qui a récupéré cette canne. Et cet ancien, partout où il allait avec cette canne l'inspirait. Alors les sages, ils lui ont dit, mais quel rapport à la canne? C'est une canne. Je veux dire, c'est pas un rabbin que t'as enseigné, c'est une canne. C'est même pas un livre, c'est une canne. Et qu'est-ce que disent les commentaires? C'est dans le Talmud de Jérusalem, hein, c'est sérieux. Qu'est-ce qu'il explique là-bas? On dit que, en vérité, on comprend comme ça, que cette canne, en vérité, a absorbé toutes les paroles de Torah de Rabbi Meir. Et la force de cet ancien, c'est que lui, il arrivait à retrouver dans la canne ce qui a été absorbé. Bon, nous, on est incapables de le faire. Comprenez quand par exemple vous avez dans la poche un dollar du Rabbi. D'accord, voilà, un dollar du Rabbi dans la poche. C'est bon, c'est un dollar. C'est un dollar.
Ah non,
qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est ça ce que je te dis. Il y a une énergie qui est dedans. Et une énergie qui ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'il y a un tzadik qui t'a touché ça, qui te l'a donné, pour toi, à toi. Donc il y a une énergie dedans. Et cette énergie est éternelle, elle ne s'arrête jamais. Maintenant, moi, je ne comprends pas. Ok, je ne comprends pas. Lorsque ma chère viendra, Dieu me donnera des nouvelles lunettes, et je verrai. Mais ce phénomène qu'on a dit, que la voix n'avait pas d'écho, pourquoi elle n'avait pas d'écho? Parce que le son était absorbé, la Torah était absorbée par la matière. C'est un phénomène qui continue et qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Chaque mot de Torah que nous disons est absorbé pleinement par la nature. Alors voilà l'enseignement qu'on doit tirer. C'est que, il faut savoir, je termine à l'oral, la référence numéro 8, c'est qu'aujourd'hui aussi, lorsqu'un juif étudie la Torah, le son de la Torah, la voix de la Torah, va entrer et va être absorbé par les murs de sa maison, par le minéral, le végétal, l'animal, l'humain, tout ce qui l'entoure, d'accord? Et d'ailleurs, c'est la seule façon pour retenir la Torah. Il faut vibrer la Torah avec tout notre corps, parce que notre corps retient. Quand j'étudie la Torah, par exemple, et que maintenant je bouge ma main, je me dis, pourquoi il bouge sa main celui-là? Pourquoi il bouge la main? Parce que ma main, elle a participé au cours de Torah, donc ma main va retenir la Torah. Elle a participé, donc puisqu'elle a participé à l'effort de la Torah, maintenant j'ai de la Torah qui est rentrée dans ma main aussi, et dans ma main, et dans ma table, et dans la lumière, et dans tout ce qui a collaboré, tout ce qui m'a aidé à enseigner la Torah, s'est imprégné de paroles de Torah. Alors encore une fois, c'est vrai que aujourd'hui on n'a pas encore les yeux pour le voir, mais Be'ezrat Hashem, très très rapidement, ma chère va venir, et là à ce moment-là on te dit la chose suivante, on te dit Kol Gadol Velo Yasaf, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on te dit, une voix qui a une influence éternelle. Ça veut dire qu'après, la Torah a une influence pas seulement sur le moment où tu étudies. Même après, comme tu as changé profondément avec ton étude de Torah, même après, lorsque tu vas rentrer chez toi à la maison, tu vas reprendre tes affaires, tu vas reprendre, etc. Étant donné que la Torah t'a changé profondément et que tu es imprégné de Torah, tu n'es plus la même personne. Ça veut dire que, encore une fois, ce que je veux dire par là, c'est que une étude de Torah, c'est pas seulement une information qu'on a appris. On est venu dans le Torah, on a appris. C'est une transformation. Chaque mot de Torah qu'on a entendu, il est rentré dans moi et il me lâchera pas. Il restera profondément ancré en moi jusqu'à la fin des temps, il s'arrêtera pas. Et ça a commencé à partir de quand? C'était pas à l'époque d'Abraham. C'était pas à l'époque d'Yitzhak. C'était pas à l'époque de Jacob. C'était pas à l'époque de Moïse. Avant le don de la Torah. C'est à partir du moment de la Torah, du don de la Torah, que Dieu a dit à partir de ce moment-là, il y a trois nouvelles choses qui vont changer. Première chose qui va changer, c'est que je vous donne mon essence. Et mon essence continuera jusqu'à la fin des temps, jusqu'à tous vos sages. Deuxième chose qui va changer, c'est quoi? C'est que vous devrez enseigner aux autres et que même lorsque vous étudiez en français, ce sera la Torah. Et troisième chose qui va changer, c'est que sachez que lorsque vous enseignez la Torah, aucun élément de la matière ne pourra faire obstacle ou écran ou bloquer votre parole de Torah. Chaque élément de la matière va s'imprégner parfaitement de votre parole de la Torah, et donc ça c'est le sens du miracle de la voix qui n'est pas d'écho, qui en vérité n'est pas un miracle, qui est un résultat, une chose normale, qui est que la parole de Dieu a intégré et a imprégné toute la matière. Ouais. Ah, évidemment, oui, bien sûr c'est faux. Mais ça même en physique on le sait, vous savez qu'en physique, on vous dit que si je parle devant un élément, et qu'on analyse l'élément avant que j'ai parlé, après j'ai parlé, c'est pas le même élément. C'est vrai ce que je vous dis, c'est pas... Maintenant nous on arrive à analyser en physique. On n'arrive pas à comprendre en métaphysique ce qui s'est passé. Mais en physique, on le sait, ça. On est capable de vous dire la différence. Alors, on n'est pas encore capable de faire parler la matière. On n'est pas encore capable, par exemple, de dire, en analysant la matière, je veux voir ce qui a été dit. Ça, on ne sait pas encore le faire, mais on y arrivera un jour. Ça ne m'étonne pas.
Il y a un rabbin qui disait que le mur de cette synagogue parle, qu'il y avait quelqu'un qui avait quelque chose qui témoigne.
Qui témoigne, ouais, je sais plus dans quel sens. Ah oui, dans la Gemara, oui, que les murs témoignent. Bien sûr, ça c'est clair, ça. La matière retient. Mais là, le ridouche d'aujourd'hui, c'est qu'en vérité, c'est que la matière absorbe la Torah. La matière ne fait pas obstacle à la Torah. Jusqu'aujourd'hui encore. Ça veut dire que le don de la Torah, c'est pas un phénomène qui a commencé, qui s'est passé une fois, et qui s'est arrêté. C'est pour ça qu'on célèbre encore le don de la Torah, parce que c'est un événement éternel, il continue jusqu'aujourd'hui. Donc quand on célèbre le don de la Torah, on célèbre pas un événement qui s'est passé à 3300 ans. On célèbre un événement, un changement, une nouvelle donne qui a changé le monde, qui a changé la façon d'étudier la Torah, qui continue jusqu'aujourd'hui. Donc Dieu nous donne la Torah aujourd'hui.
On jette plus rien, là.
Ah oui.
Voilà. Référence
au oui.
On va tout garder à la maison.
Deux observations. Concernant les faits qu'il y ait que 70 versions simultanées.
Traduction.
Ouais. Si je m'abuse, Moshe Rabbeinu, il a écrit sur des pierres, sur 70 pierres.
Oui.
L'essentiel, l'essence même de
la Torah, ouais. Oui, bien sûr. D'accord.
Donc c'était par rapport à ça aussi.
Pour qu'il y ait c'était aussi par rapport à ça, oui.
Un support.
Non, pour qu'il y ait un support et que même le support écrit dans une langue qui n'est pas hébreu soit considéré sacré.
C'est ça.
C'est-à-dire, voilà.
Accessible.
Voilà.
Alors, et par rapport au fait que la matière absorbe et parle, ça, on le voit déjà avec l'épisode du rocher. Quand, au lieu de lui parler pour avoir l'eau, il
oui.
va frapper.
Mais est-ce que vous, aujourd'hui, quand vous parlez devant quelque chose, vous sentez que ça vous peut.
Non,
si, Siri, par exemple.
Mais oui. Moshe il aurait pu.
Ok, Google, alors.
Sans problème. D'ailleurs, Hachem lui a dit, il lui a reproché, d'ailleurs.
Si,
le fait qu'il ne lui a pas parlé, il lui a frappé. Et ça, ça lui a été reproché.
C'est vrai. Mais là, vous avez raison, mais là, c'est encore plus fort. C'est juste ce que vous dites, mais là, c'est encore plus fort. C'est que, non seulement que le rocher, on peut parler au rocher, mais on te dit, lorsque tu parles au rocher, non seulement que c'est un message que tu lui donnes, c'est plus qu'un message. Si tu l'imprègnes d'une énergie qui ne le quittera plus.
Et en plus, c'est un miracle, puisque oui. C'était pour le besoin. Là, ce n'était pas un miracle inutile, c'était un miracle pour répondre à un besoin réel.
Un besoin.
D'avoir
besoin. Ça veut dire, encore une fois, la Torah n'est pas un message. La Torah est une essence de Dieu qui passe et qui transforme tout ce qui est sur son passage. Voilà. Et ça continue encore aujourd'hui, c'est pour ça que c'est important d'étudier la Torah. Donc je vais terminer en vous souhaitant, Bezrat Hashem, Kabbalat HaTorah Besibra Uftimiyut, qu'on puisse recevoir la Torah, parce qu'on la reçoit encore une fois, il faut le savoir ça. On la reçoit chaque année encore une fois. Que Dieu puisse nous permettre de recevoir la Torah avec joie et profondeur, et que Bezrat Hashem, qu'on arrive à être imprégné de la Torah, et que ça nous change profondément et durablement.
Chazak, Amen.